Quiproquo tragique par Jacques Cézambre. Il y a de cela bien des années, je me trouvais en Bolivie, après une expédition en pirogue sur les rios du Brésil, où j'avais failli laisser mes os. Mon but avait été non seulement d'effectuer une traversée sensationnelle, on aime le risque quand on est jeune, mais aussi de découvrir d'importantes compagnies d'aigrettes. À l'époque, les plumes de ces jolis oiseaux avaient une grande valeur, car la mode poussait les chasseurs à les rechercher un peu partout sur les fleuves tropicaux, et les aigrettes étaient devenues assez rares sur les cours d'eau faciles à parcourir. Après m'être remis de mes fatigues, je songeais à reprendre un projet que je continuais à trouver intéressant, en profitant toutefois de l'expérience acquise, et j'étudiais le plan d'une nouvelle expédition lorsqu'un bruit assez surprenant se répandit en Bolivie. Les journaux du pays mentionnaient qu'un Anglais, arrêté dans des circonstances mystérieuses, vivait misérablement dans une geôle insalubre de Santa Cruz et la Sierra, les chevilles prises dans une lourde entrave de fer, à peine nourrie et condamnée à mort. Personne ne cherchait à nier que Jack Reynolds eût pu, malgré sa condamnation, recouvrer sa liberté. Dans ce pays, les fonctionnaires n'étaient pas payés par le gouvernement, et leur conscience pouvait parfois devenir élastique. Le jour où Reynolds passait devant la Sala des Acusaciones, son juge, un marchand d'huile de palme, lui déclarait carrément que, moyennant la somme de 2 000 francs, il ne verrait aucun inconvénient à lui ouvrir les portes de la prison. Le pauvre garçon, malheureusement, n'avait pas un bolivar sur lui. Sans cela, il lui mangeait à sa faim. Singulier pays que celui où les prisonniers doivent se nourrir à leurs frais. Depuis le début de sa détention, Reynolds recevait une maigre pitance tous les 2 ou 3 jours, le strict nécessaire pour ne pas mourir. Comment ce malheureux connut-il la présence d'un Français dans la capitale du pays où il éprouvait une si cruelle infortune? Je n'en sais rien, mais il m'écrivit. Ne sachant comment se procurer l'argent indispensable pour corrompre ses geôliers, il me demandait en grâce d'ouvrir une souscription en sa faveur. Un Européen ne pouvait refuser cela à un autre Européen, d'autant plus que, victime d'une fatalité incroyable, il était innocent. Cela, il me jurait sur le Christ. En une heure terrible, ajoutait-il, où il serait odieux d'abuser un honnête homme. Je savais que les Européens que l'on rencontre en Bolivie n'ont pas tous la conscience nette. Il s'en faut. La Guyane n'est pas très loin, et les forçats qui s'en évadent se répandent volontiers dans les pays voisins, où ils sont d'ailleurs bien accueillis, la main-d'œuvre des ouvriers spécialistes y étant rare. Je n'étais pas absolument convaincu de l'innocence de Reynolds, mais il m'était difficile aussi de ne prêter aucune attention à un malheureux dans son cas. Je me rendis donc à Santa Cruz de la Sierra, et moyennant un honnête pourboire, je vis s'ouvrir devant moi les portes de la prison. Quand je pénétrai dans le cachot du pauvre diable, je ne vis rien tout d'abord après le soleil éblouissant du dehors, mais j'entendis une voix rauque au ras du sol. « Merci, monsieur, d'avoir eu pitié. » Je pris ses mains dans l'ombre. Elles étaient décharnées et brûlantes de fièvre. Mes yeux, habitués un peu à la pénombre du réduit fétide, distinguèrent un être humain étendu sur une sale litière, comme un ruminant dans son étable. Il avait 50 ans peut-être, mais paraissait davantage à cause surtout de sa barbe et des privations endurées. Son regard énergique brillait d'une façon extraordinaire. Il parlait avec une force de conviction si grande qu'au bout de 10 minutes, il était difficile de croire qu'un tel homme pût être un bandit. Ce qui m'étonnait beaucoup était que Ronald s'exprimait en un français très pur, sans le moindre accent. « Êtes-vous donc véritablement anglais ?» lui demandai-je. « Oui, monsieur. Je comprends votre surprise. Sans doute me prenez-vous pour l'un de vos compatriotes, pour l'un de ces bagnards ribadés qui ne tiennent pas à dévoiler leur véritable personnalité. Si cela était, je me dirais belge ou suisse, mais je suis véritablement anglais. Mon absence d'accent s'explique facilement par la raison que, venu très jeune à Paris, j'ai été élevé. Ah, monsieur, reverrai-je jamais les boulevards, la Seine et toute cette belle ville que j'aime tant ? Courage, lui dis-je. « Tout n'est pas perdu encore. Parlez-moi comme à un ami, et si je puis faire quelque chose pour vous, je le ferai. » Alors il me raconta sa douloureuse odyssée. Fils d'employé modeste, Jack Reynolds, d'un caractère aventureux et d'une belle énergie, décida dès ses premières années qu'il s'en irait à l'étranger tenter la fortune. De fait, à 22 ans, il cherchait déjà sa voie en République argentine, faisant 20 métiers divers, entreprenant plusieurs affaires avec une malchance trop persistante pour ne pas lui laisser espérer une belle revanche. Il croyait, comme beaucoup d'autres, que nous avons tous une passe de veine à un moment de notre existence. Le principal est d'avoir confiance en soi, et Ronald croyait en son étoile. La patience était l'une de ses qualités. Après 8 ans d'efforts continus, la chance lui sourit enfin. La chance. Il eût mieux fait à ce moment-là de s'embarquer pour l'Europe, mais peut-on prévoir l'avenir ? Durant plusieurs mois, il avait parcouru des territoires peu connus, en Bolivie, à la recherche de plantes à caoutchouc pour le compte d'une compagnie allemande. Son petit pécule s'arrondissait. Il résolut de travailler pour lui-même, et s'associant à un camarade de nationalité américaine nommé Nasher, il se lança dans les Illanos du Brésil. Les deux jeunes gens ne partaient pas à la légère. De précédentes incursions dans la province de Mato Grosso, sur les bords du Rio Iteni, leur avaient fait espérer une expédition fructueuse. Leurs prévisions étaient justes. Quelques semaines plus tard, ils découvraient une contrée extrêmement riche en euphorbiacées. Décidés à tirer rapidement parti de leur trouvaille, ils firent route vers le sud. Leur intention était de gagner Buenos Aires le plus tôt possible pour traiter l'affaire avec quelques gros négociants. Mais en descendant le fleuve Paraguay, ils eurent la fâcheuse idée de s'arrêter plusieurs jours à Corumba. Et c'est là que naquit le drame. Le Maurice était répandu que Ronald et Nasher venaient de faire une découverte importante. Un matin, ils reçurent la visite du représentant d'une compagnie de Hambourg, Toffen, Schnack, Müller et compagnie, laquelle possédait plusieurs grands comptoirs au Brésil. L'Allemand était acheteur de caoutchouc, il offrit de belles conditions et s'était gagné plusieurs mois. On s'entendit vite. Ronald et son compagnon cédaient leurs droits sur le territoire découvert par eux, contre la somme de 100 000 francs, payable après vérification. Ils conduiraient une petite expédition organisée par la compagnie, et sur place, l'agent qui les accompagnerait devait signer un chèque. Le représentant de la maison Stoffen prévint les deux chasseurs de latex qu'ils devaient seulement s'écarter de leur route et faire une courte escale à San José, en Bolivie, où ces hommes convoyaient une somme importante en or monnayé, 175 000 francs qu'on emportait à dos de mulet. Ronald, ne voyant aucun inconvénient à faire ce léger détour, les préparatifs furent rapidement poussés et 8 jours après, la petite caravane se mettait en route. Elle comprenait 3 Allemands, 2 Américains, un ingénieur français remontant vers le Rio Negro, un métis et 11 Indiens, soit, en comptant Ronald et Nasher, 20 hommes bien armés en prévision des mauvaises rencontres possibles, car les routes de Bolivie, peu ou point gardées, étaient infestées de brigands. Pendant les premières journées du voyage, Nasher, le compagnon de Ronalds, se lia intimement avec l'un des Américains nommé Yardley. Ils chevauchaient souvent à l'écart, botte à botte, et au campement, le soir, s'entretenaient longuement, tandis que les autres s'endormaient. Rien de plus naturel, en somme. Ces randonnées dans la brousse sont souvent monotones. On cherche à se distraire comme les passagers à bord d'un navire. Des amitiés se créent, des groupes se forment suivant les caractères et les goûts. Ronald, cependant, n'était pas tranquille. Des lambeaux de conversation attrapés au passage, des regards échangés entre Nasher et l'Américain lui donnaient à réfléchir. À la vérité, il connaissait assez mal son associé. Il le tenait pour un garçon intelligent, actif, courageux, mais sans scrupules. Et Yardley avait une allure assez louche. Bientôt, William Rawls, l'autre Américain, se joignit aux 2 nouveaux amis et le trio devint inséparable. « Ils ont l'air de comploter quelque chose », pensa Jack Ronalds. Ses soupçons n'étaient que trop justifiés. Le matin du 7e jour, la petite troupe venait de quitter la ferme de Matacuti où elle avait passé la nuit, quand un ordre bref, répété 3 fois, partit en arrière. « Oh les mains, tous !» Ronald se retourna sur sa selle. Nasher, Rawls et Yardley, ayant mis pied à terre, couchaient en joue leurs camarades. « Oh les mains !» répéta Nasher. « Écartez-vous ! Nous ne vous ferons pas de mal, mais laissez-nous emmener les mules chargées d'or. » Pour toute réponse, l'un des Allemands, épaulant vivement son rifle, fit feu. Nasher, atteint en plein front, lâcha son arme, leva les bras et s'abattit en avant. Alors la fusillade éclata de part et d'autre. Les 2 bandits, abrités derrière des roches, faisaient feu sans discontinuer. 3 Indiens et 1 Allemand roulèrent sur le sol. Dès le début, Ronalds, faisant cause commune avec les membres de l'expédition contre les bandits, avait épaulé son arme. Mais il n'eut pas le temps de s'en servir. Sa jument, atteinte légèrement à la croupe par une balle perdue, se cabra sous la douleur et s'emballa, sans qu'il pût rien faire pour la maîtriser. Peu à peu, le bruit de la fusillade décrut à ses oreilles, puis se tut. La bête, essoufflée, ralentit son allure et s'arrêta. Ronalds regarda autour de lui. Sous un soleil tellement ardent que le ciel paraissait blanc, c'était une plaine immense et grillée, où des arbres poussiéreux dressaient entre des roches leurs silhouettes rigides. Belle aventure, en vérité. Qui eût osé attribuer à Nasher des instincts aussi bas, des calculs aussi criminels au moment précis où la fortune allait leur sourire à tous les deux? Et n'allait-on pas croire que sa fuite à lui, Ronalds, était simulée, qu'il était complice des trois bandits? La première chose à faire, pensa-t-il, est de retourner vers mes compagnons, ce qui est facile grâce aux traces de ma monture. Il est évident qu'ils ont dû venir à bout des misérables, et j'aurais vite fait d'établir ma bonne foi. Combien avait-il parcouru de milles? 4 ou 5 au plus. Il tourna bride en éperonnant vigoureusement sa bête fumante. Mais le chemin à parcourir était beaucoup plus long qu'il n'avait cru, et la jument, fatiguée, allait au pas. Au moment où elle s'engageait dans un petit ravin, Ronalds aperçut brusquement devant lui 3 hommes armés de fusils. Dans la surprise de l'attaque, il n'avait pas remarqué la chute de Nasher, et prompte comme la foudre, cette pensée lui traversa l'esprit qu'il avait devant lui les 3 bandits. Dans la grande clarté aveuglante, l'erreur était permise, d'autant plus que ces hommes, coiffés de grands chapeaux mous comme ses anciens compagnons, le menaçaient. Et sans réfléchir, Ronalds, cinglant sa bête à grands coups de fouet, repartit au galop, courbant l'échine sous les balles. Hélas, en fuyant, il avait l'air d'avouer sa participation au crime, dont on l'accusait, en effet. Les gens qui tiraient sur lui étaient des habitants de la ferme de Matakuti, partis à sa recherche. Jugeant la partie perdue, Yardley et son complice avaient sauté sur leurs chevaux et, réussissant à blesser encore un homme, s'étaient enfuis. On battait la brousse en tous sens pour les trouver, et dans l'esprit des agents de Stoffen, Schnack, Müller et compagnie, Jack Ronalds avait participé au complot. Le caoutchouc de Mato Grosso n'était qu'un prétexte pour attirer l'expédition dans un guet-apens. Pendant qu'on lui donnait la chasse, l'Anglais, fuyant devant ceux qui le prenaient pour l'un des bandits, gardait toujours l'espoir de rejoindre ses compagnons. Mais bientôt, son cheval épuisé buta et s'abattit dans les broussailles, une patte cassée. Ronalds prit son fusil et continua de fuir, harassé, torturé déjà par la soif, désorienté. Vers le soir, il aperçut pourtant la montagne de San Lorenzo et sentit son énergie renaître, car il savait maintenant que le rio Jucavuca coulait non loin de là, à proximité d'une route menant au Brésil. Ses pillants de l'oreille le faisaient cruellement souffrir. Toute la nuit, pourtant, il se traîna péniblement à travers les broussailles et les roches encore chaudes, contre lesquelles sa tête brûlante de fièvre ne pouvait même pas trouver un peu de fraîcheur. Au petit jour, il s'endormit, vaincu par la fatigue, et son sommeil eut sans doute duré très longtemps, si des bruits de voix ne l'avaient fait bondir tout à coup. « par ici, tenez, voici la trace de ses pas. »« Oui, oui, il ne doit pas être loin, attention. » On le cherchait, on le suivait à la piste. Parbleu, les 3 bandits n'avaient pas abandonné ses traces, et Ronald se prépara à défendre sa vie jusqu'au bout. Il eut un instant de silence, puis une détonation craqua sèchement dans l'air embrasé. L'Anglais jeta un cri. Une balle lui avait traversé le bras gauche. Il vit confusément des hommes qui se dissimulaient et tira. Son coup avait porté. L'un des bandits venait de s'écrouler sur le sol. Mais il y eut une exclamation d'épouvante. En tombant, l'homme lui était apparu en pleine lumière avec son shako à visière carrée, son uniforme à boutons brillants, son fusil à baïonnette. Ce n'étaient pas des bandits qui le traquaient, mais des soldats boliviens. Comment faire pour s'expliquer maintenant? Pouvait-il se montrer, marcher vers eux sous une grêle de balles? Et même s'il tentait de leur parler, pouvait-il faire entendre raison à ces hommes à demi sauvages? Il avait tué l'un des deux par méprise, mais le fait n'en subsistait pas moins, et s'il ne continuait pas à tenir ses adversaires en échec, c'en était fait de lui. Ronalds n'avait nullement envie de se faire massacrer. Embourbé dans ce mauvais pas, il voulut s'en tirer coûte que coûte. « Si je réussissais à gagner le Brésil, ce serait le salut, » pensait-il. Aucun traité d'extradition, en effet, n'avait été passé entre les 2 républiques sud-américaines, et à quelques milles de la frontière, Ronalds eût pu échapper à ses poursuivants. Mais, épuisé comme il l'était, il ne pouvait pas fournir une marche de plusieurs jours. Quand il eut fui assez facilement, les soldats se désintéressant de lui pour s'occuper du corps de leurs camarades, il comprit bien que ses forces l'abandonneraient. Pourtant, Il eut le courage de se traîner de jour et de nuit dans la brousse, les pieds en sang, la tête en feu, un bras tuméfié par sa blessure, exténué, mourant de soif, râlant, revenant parfois sur la route, d'instinct, dans l'espoir de faire une rencontre, de pouvoir enfin calmer l'horrible souffrance de ses entrailles, puis se rejetant dans les bois pour éviter les soldats lancés à sa poursuite. Deux fois il fut aperçu et essuya des feux de salve, mais toujours il réussit à dépister ses ennemis. Ceux-ci gardaient les bords de la rivière, les moindres ruisseaux où il eût pu se désaltérer, comptant bien le prendre par la soif, et c'est par ce moyen qu'il réussit en effet à le ramasser un matin au bord de la route, lamentable, comme un pauvre cerf rendu. Il ne pouvait plus parler. Les soldats le ficelèrent de la tête aux pieds le long d'une grande branche, et quatre péons, engagés spécialement à Santiago, l'emportèrent sur leurs épaules. 6 jours plus tard, le prisonnier arriva à San José où il reçut les soins d'un docteur. Traité avec bonté, il se prenait à espérer que l'aventure ne tournerait peut-être pas trop mal, quand le sous-préfet de la ville lui fit river des chaînes aux mains et aux pieds une barre de fer qui pesait 20 livres. Jeté dans un cachot obscur et fétide, Ronald y fut gardé à vue jour et nuit par 2 sentinelles. Au cours de l'enquête, le malheureux essaya en vain de prouver sa bonne foi devant des magistrats qui, de parti pris, voyaient en lui un dangereux criminel. La Sala de Acusación de Santa Cruz le renvoyait peu de temps après devant la Cour suprême qui le condamnait à mort. « Voilà toute mon histoire lamentable, » conclut Ronalds. « Sur la mémoire de ma mère, je jure qu'elle est vraie et que je n'y ai rien changé. J'en ai vu de dur dans la vie, mais je trouve affreux d'en être réduit à un sort si injuste, sans avoir commis volontairement une mauvaise action. J'ai dit que, dès le début, j'avais été frappé par les accents d'une sincérité qui ne trompait pas. Le récit de cette infortune m'avait ému jusqu'aux larmes. Je pris affectueusement la main de l'Anglais. « Courage, camarade, » dis-je. « Il ne faut pas désespérer. Je veux faire quelque chose pour vous. » Il se prit à sangloter. « Enfin, voici donc des paroles d'humanité. Quelle que soit la destinée qui m'attend, soyez béni pour avoir versé un peu de baume dans mon pauvre cœur. Je savais que je ne m'adresserais pas en vain à un Français. Écoutez, le temps presse. Ne croyez-vous pas que vous pourriez intéresser d'autres Européens à ma misère et organiser une souscription pour payer ma rançon ?» « Nous risquerions d'arriver trop tard, » dis-je. « Je vais faire mieux que cela. Je ne suis pas très riche, mais je vais vous avancer ces 2 000 francs, et un peu plus tard, quand vous le pourrez, vous me rembourserez. » Comme il pleurait, comme il baisait mes mains, le pauvre homme. Et après, quand il se trouva libre, avec quelle joie il m'entendit lui proposer de me seconder dans mes expéditions. Vraiment, si j'avais pu concevoir le moindre doute sur son honnêteté, je l'eusse bien vite chassé en constatant à quel point, en quelques heures, le malheureux s'était attaché à moi. Ronalds m'aimait avec la fidélité d'un chien. « Je n'aurai l'esprit tranquille, me répétait-il 10 fois par jour, que quand je vous aurai remboursé les 2 000 francs que vous avez versés si généreusement pour moi. Et après, il me restera de m'acquitter de ma dette de reconnaissance. Ne parlons donc pas de cela, lui disais-je, ce que j'ai fait pour vous de si grand cœur, vous l'eussiez certes fait pour moi. Vous pouvez en être sûr. Cela n'empêche pas, patron. » Il avait pris l'habitude de m'appeler familièrement ainsi, bien que plus âgé que moi. Cela n'empêche pas que vous êtes un brave homme et que je vous aime bien. Mon compagnon ne tenait pas à s'attarder en Bolivie. On le comprendra sans peine. Nous décidâmes donc de gagner le Brésil et le Venezuela, où sa grande connaissance du pays me serait précieuse. Je revenais toujours à ma maraude de chasser l'aigrette, et Ronalds se montrait plein d'enthousiasme à l'idée de me seconder. À l'époque dont je parle, la chasse était encore rémunératrice là-bas. Depuis, en raison de la destruction inquiétante des aigrettes, le gouvernement vénézuélien a sévèrement réglementé la question. Ces jolis oiseaux, dont les plumes furent si estimées dans le commerce, la mode en reviendra un jour ou l'autre, ne sont plus menacés d'extinction totale, du moins dans certains pays comme le Venezuela, où l'on a organisé méthodiquement la cueillette des plumes. Les aigrettes, garzas en espagnol, se réunissent par bandes dans les localités que les indigènes appellent garzeros et dormitorios. Dans les premiers, elles font leur nid et élèvent leurs petits. Dans les seconds, vivent les oiseaux qui ne sont pas accouplés. Les aigrettes subissent une période de mue durant laquelle leurs plumes tombent pour laisser place à une nouvelle parure. Ces vieilles plumes sont abandonnées à terre ou sur les branches des arbres, et ce sont elles que les indigènes recueillent précieusement pour le compte des grandes maisons d'exportation vénézuéliennes. Cette curieuse récolte se pratique de septembre à novembre. Elle assure l'existence de milliers d'indigènes. Tandis que nous voguions à travers des contrées très sauvages, faisant une ample moisson de plumes précieuses, nous apercevions presque constamment sur l'eau, comme des branches mortes immobiles, le long nez et le dos des alligators qui pullulent dans ces parages. Ronalds, qui était très documenté sur les fermes où se pratique l'élevage de ces sauriens au Mexique et dans le sud des États-Unis, m'en parlait souvent. Nous étions bons tireurs, Ronalds et moi. Le plus souvent, nous logions notre balle dans l'œil de l'alligator. Sa peau très épaisse le protège bien, en effet, et l'œil est le point le plus vulnérable. J'ai gardé un excellent souvenir des quelques mois que nous vécûmes ainsi dans les solitudes vénézuéliennes. Le soir, quand nous campions sur la rive et que notre Indien allumait un grand feu de bois pour écarter les bêtes féroces, autant que pour faire cuire le produit de notre chasse ou de notre pêche, nous causions longuement, Ronald et moi, en fumant la pipe. Il m'entretenait souvent de sa terrible aventure, anxieux de voir luire le jour où il pourrait entreprendre avec quelque chance de succès la démonstration de sa bonne foi. Cependant, nous continuions notre hécatombe d'aigrettes et d'alligators. Pour les oiseaux, la chose allait sans encombre, mais avec les sauriens, les affaires manquèrent de peu de tourner très mal. Un matin de bonne heure, je m'étais éloigné seul le long d'une rivière, dont les eaux assez basses découvraient de larges bancs de sable et de vases. Je m'en allais un peu au hasard, mon fusil à l'épaule. J'ai toujours aimé marcher ainsi à la chasse, en solitaire et à l'aventure. Ronald était resté au campement avec l'Indien pour préparer des pots. Tout à coup, j'aperçus des aigrettes qui tournoyaient au ras de l'eau à peu de distance, et la perspective d'un beau coup de fusil me donna l'idée de m'approcher d'elles en rampant sur le sol, entre les racines tortueuses des grands banians penchés au bord. Ayant atteint une situation favorable, je m'apprêtais à viser à plat ventre sur le sable, quand j'entendis derrière moi un glissement bizarre. Je me retournai, et à 10 mètres de moi au plus, j'aperçus 4 ou 5 alligators de belle taille qui s'avançaient dans ma direction avec des intentions évidemment peu pacifiques. Je fausserais la vérité si j'affirmais qu'à cette vue je n'éprouvais pas un petit frisson désagréable. Mais je ne suis pas mauvais tireur, et sans hésiter, d'une balle rapide en plein dans l'œil, j'envoyai l'un de mes ennemis culbuter dans l'eau. Les autres, pensais-je, vont se débander comme c'est assez dans leur habitude. Ah ben oui. À ma profonde surprise, les sauriens continuèrent d'avancer dans ma direction en claquant l'une contre l'autre leurs sales mâchoires terriblement armées. Je reculai un peu pour prendre du champ, et derrière moi, à gauche aussi et à droite, j'entendis le glissement sinistre qui m'avait ému tout à l'heure. J'étais cerné par une trentaine d'alligators. Le danger réel de ma situation m'apparut. Je compris pourquoi mon premier coup de fusil n'avait pas fait fuir les crocodiles. Ils se sentaient forts par le nombre, sachant bien, dans leur instinct de carnassier, qu'ils avaient la partie belle contre moi. Je me trouvais très près du bord de la rivière sur un banc de sable vaseux qui formait îlot. Il m'eût suffi de parcourir 15 mètres à peine sur un terrain faiblement submergé pour atteindre la terre ferme, mais les alligators me barraient la route comme s'ils avaient établi une tactique de combat. Une seule chance de salut s'offrait à moi, attaquer les sauriens de ce côté pour dégager la voie et en quelques bonds atteindre la rive. Il ne fallait pas tergiverser, car les alligators, assez lents à se mouvoir sur le sol, montrent au contraire dans l'eau une très grande agilité. En quelques secondes, je fis plusieurs victimes, mais dans ma précipitation attirée, j'en manquai aussi 4 ou 5, de sorte que les sauriens, exaspérés, se ruèrent sur moi au plus vite, rétrécissant rapidement le cercle fatal dont j'étais le centre et le but. Il me fallait me retourner sans cesse pour faire face à ceux qui voulaient m'attaquer par derrière. Je perdais du temps et par conséquent du terrain. Recharger mon arme devenait maintenant une chose terrible et plusieurs fois, il me fallut frapper avec la crosse pour faire reculer un instant un ennemi plus audacieux que les autres. Ma situation devenait tellement critique que, serré de trop près, je décidai brusquement de jouer le tout pour le tout. En 3 bonds, je sautai par-dessus 3 alligators qui menaçaient de me saisir les jambes et j'allais parvenir à la terre ferme lorsque tout à coup, avec une angoisse inexprimable, je sentis le sol manquer sous mes pieds. J'étais tombé dans un trou baseux et à demi enlisé, je ne pouvais ni avancer ni reculer. Plus j'essayais de me dégager, plus je sentais mes bottes enfoncées dans la boue gluante qui me retenait de tout son poids. « Mon vieux, pensais-je, tu es frit. » Tout de même, je n'allais pas me laisser déchiqueter affreusement par ces horribles bêtes sans me défendre jusqu'au bout. j'en démolirai encore quelques-unes, et après, mon Dieu, après, il me resterait mon revolver pour me faire sauter le caisson. » Les crocodiles semblaient avoir compris. Avec ensemble et prêts à se disputer la proie rare que je représentais pour eux, ils avançaient en remuant gauchement leurs ignobles pattes. Et alors, entre deux détonations de mon arme, car je tirais presque sans arrêt, je perçus au-dessus de moi un sifflement léger qui me fit lever la tête. Au même moment, avant d'avoir pu esquisser une riposte, je me sentis enlacé, enveloppé irrésistiblement par une force prodigieuse qui m'arrachait à l'emprise de la vase. Un serpent monstrueux, enroulé à une branche de banyan, me tenait suspendu dans les airs. J'échappais aux alligators, mais pour quel destin aussi redoutable? Cette fois, j'étais bien perdu. Déjà, les feuilles de l'arbre me frôlaient le visage, et je me trouvais à 4 mètres, pour le moins, au-dessus de la rivière, quand une voix cria « Je suis là, patron !» Presque aussitôt, un coup de feu, un choc mou près de moi. L'étreinte se desserra. Je n'eus que le temps de m'accrocher des deux mains à une branche. Le serpent, se tordant dans les convulsions de l'agonie, glissait sur le sol. Je ne fus pas long à l'y rejoindre. Brave Ronalds, il était là, près de moi, souriant, ému, et je ne trouvais rien de mieux à faire que de tomber dans ses bras. De loin, mes coups de fusil répétés lui avaient paru anormaux, et il était arrivé à mon secours de toute la vitesse de ses jambes. C'est ainsi que l'excellent Ronalds me témoigna sa reconnaissance. Je crois bien qu'il était encore plus heureux que moi. « Eh bien, dis-je, maintenant nous sommes quittes. »« Pas du tout, patron. Je ne vous ai sauvé que la vie. Vous m'aurez permis de sauver mon honneur. » Il disait vrai. Plusieurs années après, la justice est lente dans tous les pays. Mon camarade ayant amassé une petite fortune en chassant l'aigrette, put entreprendre utilement la révision de son procès. Cette fois, il triompha complètement, et quand il quitta la Bolivie, avec une satisfaction évidente, nul soupçon n'entachait plus son passé. Ainsi s'achève « Quiproquo tragique » par Jacques Cézambre.